Le journal Sébastien Legenis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une ce matin, tout un pays à l'heure de la fête. 3 jours de festivités en perspective en France. Surtout si les Bleus décrochent leur 2e étoile mondiale. Un week-end chargé pour les services de sécurité, notamment dans la capitale, mais aussi dans des petites communes dépassées par le succès des footballeurs français. Hard ou soft, Theresa May toujours empêtrée dans le Brexit. Et ce matin, une nouvelle pierre dans le jardin de la première ministre britannique. Une interview très critique, on l'entendra ce matin, de Donald Trump lui-même, pourtant invité des Anglais pendant 4 jours. À 8h20, Amélie, vous recevez un écrivain qui connaît bien les couloirs de France Inter.
Et oui, un champion des ventes de livres, Sylvain Tesson. Son été avec Homer s'est écoulé à 100 000 exemplaires numéro 1 en librairie avec l'écrivain voyageur. On parlera de l'Iliade, de l'Odyssée, des nouvelles Odyssées et des nouveaux Ulysses modernes aussi dans l'actualité. Posez-lui vos questions. Le standard est ouvert dès maintenant, 01 45 24 7000.
De mémoire de fêtard, on n'a pas vu ça depuis 20 ans, depuis la victoire des Bleus en 98. La France est à la veille d'un week-end de folie, bal des pompiers ce soir, 14 juillet demain et surtout dimanche, la finale de la Coupe du Monde, une finale à laquelle beaucoup de mairies ne s'étaient pas préparées. Pas de grands écrans sur la place du marché, pas assez de barrières pour canaliser la foule. Des dizaines de communes se retrouvent prises de court, comme par exemple la ville de Lorient, Thibault Lefèvre.
Des centaines de coups de fil à la mairie depuis mercredi matin et maintenant une pétition. Les Lorientais veulent leur fan zone et leur écran géant. Ils sont près de 1500 en moins de 24 heures à avoir signé le texte rédigé par un supporter des Bleus, Joris Vacholder.
C'est des choses qui arrivent une fois tous les 4 ans si on a la chance d'arriver en finale, mais si on peut rassembler 10-15 000 personnes sur une soirée, sur une finale, c'est ça que les gens veulent, c'est pouvoir fêter ça ensemble. La réponse que mettent les signataires sur la pétition, c'est on va contacter la mairie, on va envoyer des mails à la préfecture, au maire, c'est pas normal. Et je pense qu'il y a un problème de coût. Hein.
Les mairies de Lorient, de Verdun, mais aussi de Lille notamment, et toutes les communes des Landes disent ne pas avoir les moyens financiers d'installer des fan zones. Bertrand Tortigue est l'adjoint aux fêtes et aux manifestations de Mont-de-Marsan. Il est au micro de Frédéric Denis de France Bleu Gascogne.
Un écran géant, c'est entre 10 et 20 000 euros. Et après, donc, il faut tout barriérer. Et c'était difficile de demander encore à nos services d'organiser tout ça, plus tous les frais de société de gardiennage. C'était un poids important.
Car les contraintes imposées par le ministère de l'Intérieur sont très exigeantes. Il faut prévoir un espace fermé, contrôlé et limité à un nombre maximum de spectateurs. Le tout sous la responsabilité des maires.
Thibault Lefèvre, un casse-tête donc pour les maires. On vient de l'entendre. Ce week-end s'annonce aussi très délicat pour les forces de l'ordre en région et pour la préfecture de Paris. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Spécialiste police à France Inter. En cas de victoire des tricolores, la marée humaine attendue sur les Champs-Élysées est estimée à 1 million de personnes. Paris s'apprête donc à vivre sous très haute sécurité.
Oui, et pour cela, la préfecture de police de Paris lance un plan inédit par son ampleur pour interdire la moindre circulation, avec des périmètres coulissants et s'élargissant tout au long du week-end. Cela commencera de façon assez classique pour le défilé du 14 juillet demain matin, mais c'est tout autour des Champs-Élysées que l'on verra la différence par l'importance du nombre de barrières, des dispositifs anti-voitures bélier. On sait qu'il existe aussi tout un volet anti-drone. Une deuxième bulle de protection sera mise en place progressivement dans l'après-midi autour de la Tour Eiffel et du Champ de Mars. Par la suite, pour le feu d'artifice et le grand concert de la capitale dans la soirée. Pour dimanche, le préfet de police de Paris, Michel Delpech, a redit hier à quel point il souhaitait éviter le moindre contact entre des foules et des voitures qui tenteraient d'entrer ou de quitter la capitale, avec des conducteurs qui perdraient leur sang-froid, s'énerveraient, sans même penser au risque terroriste, même si c'est évidemment la menace d'attentats qui entraîne des mesures de sécurité aussi drastiques, avec plus de 12 000 policiers auxquels il faut ajouter plus de 1 600 soldats de l'opération Sentinelle qui patrouilleront dans tout le Grand Paris, les agents armés également de la SNCF et de la RATP pour les gares et les métros, et enfin 3000 secouristes.
Emmanuel, en même temps, la préfecture de police de Paris affiche une certaine sérénité, il faut le dire. La demi-finale s'est très bien passée.
Oui, et les responsables de la sécurité publique de la capitale pensent que ce sera en fait, entre guillemets, plus calme que les années passées, parce que la fête autour de la finale de la Coupe du Monde de football pourrait permettre d'avoir en réalité moins de feux de voiture, voire moins d'embuscades contre des pompiers et des policiers.
Emmanuel Leclerc, merci. C'est dans ce contexte que le gouvernement présentera aujourd'hui un nouveau plan d'action contre le terrorisme. 32 32 nouvelles actions, création notamment d'une cellule de profilage afin d'identifier en amont les suspects capables de passer à l'acte. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, se verra confier également tout le pilotage opérationnel de la lutte antiterroriste et puis à noter le retour surprise d'une mesure qu'on croyait enterrée, la création d'un parquet national antiterroriste. Les détails de ce plan sur franceinter.fr. Direction Moscou maintenant pour parler sport, cette fois et notamment de l'encadrement des Bleus. On ne cesse de louer les mérites du sélectionneur Didier Deschamps, mais il n'est pas le seul derrière ce succès. Bonjour Franck Ballanger.
Bonjour Sébastien.
L'un de nos envoyés spéciaux en Russie. Alors le premier adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus s'appelle Guy Stéphan, l'homme que tout le monde a déjà vu Franck, mais que personne ne connaît.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Guy Stéphan, c'est l'homme qui murmure en permanence à l'oreille de Didier Deschamps pendant les matchs des Bleus. Pour être tout à fait exact, Didier Deschamps lui aussi murmure souvent à son oreille parce que Guy Stéphan, c'est son lieutenant. Depuis 2009, où il a commencé à travailler avec lui à Marseille, le Breton de 61 ans est l'ombre du sélectionneur et il s'en accommode très bien.
Voilà, ça fait partie de la fonction, il faut l'accepter, sinon il faut faire autre chose. Il faut aller dans une autre fonction ailleurs, ce qui n'est pas du tout mon envie. Il faut bien vivre ça, bien vivre, et puis faire avancer les choses, donner le maximum de renseignements. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire au sélectionneur. Il faut dire ce qui peut améliorer l'équipe.
Par exemple, Guy Stéphan a souvent expliqué qu'il ne répétait pas forcément à Didier Deschamps ce que pouvaient lui dire les joueurs. Et les Bleus le savent, ce qui installe une relation vraie entre l'adjoint et les joueurs.
Guy Stéphan a donc une courroie de transmission importante, capable en quelque sorte de donner corps à une équipe. Hein.
L'une des phrases que l'on entend le plus souvent depuis le début de la Coupe du Monde, Sébastien, c'est « le groupe vit bien ». Une formule un peu passe-partout, mais qui peut quand même prendre un peu de sens, notamment pour Guy Stéphan, ancien joueur de bon niveau en deuxième division à Rennes ou Guingamp, obligé de mettre un terme à sa carrière à seulement 29 ans, après un grave accident de voiture qu'il avait laissé dans le coma. Entraîneur à Lyon ou brièvement aux Girondins de Bordeaux, Guy Stéphan était peut-être né pour être adjoint, pour être le meilleur des numéros 2. Celui qui sait la psychologie du groupe, celui qui sait rester à sa place aussi entre les joueurs et le staff. Le groupe France en Russie, c'est 43 personnes et Guy Stéphan se voit comme une courroie de transmission, un lien intergénérationnel.
On ne parle pas de la même façon à Kylian Mbappé qu'on parle à Mandanda par exemple, si je prends le plus jeune et le moins jeune, je n'ai pas dit le plus âgé, hein, le moins jeune. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des joueurs qui ne jouent pas quand il y a un but. C'est assez extraordinaire à vivre du banc de touche. Ça montre que c'est pas un cliché que de dire que le groupe vit bien, c'est quelque chose de réel, mais il faut pas qu'il y ait une euphorie.
Guy Stéphan est toujours à la recherche de l'équilibre parfait. Si la France gagne dimanche, il ne sera pas le plus démonstratif, mais il sera certainement l'un des plus heureux dans son coin, pas très loin de Didier Deschamps.
Franck Ballanger, envoyé spécial à Moscou. Retenez aussi ce nom, Nestor Pitana, c'est lui qui arbitrera la finale, un Argentin qui s'était déjà illustré dans le quart de finale entre la France et l'Uruguay et qui n'avait pas lâché chez Kylian Mbappé d'une semelle, c'est l'attaquant qui le dit.
8h08, la suite du journal de Sébastien Legénie. Un chiffre très attendu, Sébastien, par les élèves et les enseignants.
Oui, le taux de réussite au bac, on vient de l'apprendre, 88,3% des réussites. Ce n'est pas un record, mais presque. L'occasion de faire le point sur Parcoursup. À ce jour, la nouvelle plateforme d'accès à l'enseignement supérieur affiche un bilan très proche de l'ancien système APB, Sonia Bourane.
Dans Parcoursup, à ce jour, plus de 680 000 candidats ont reçu une proposition d'admission. C'est environ 84% des demandes. Exactement le taux de réponse positive dans APB l'an dernier, lors de la troisième et dernière phase le 14 juillet. La différence, c'est que dans Parcoursup, 420 000 candidats ont définitivement validé leurs vœux, mais plus de 170 000 attendent d'avoir mieux et bloquent des places pour ceux qui n'ont rien. Près de 78 000 jeunes sont en effet toujours en attente. 13 000 autres ont fait appel à une commission rectorale parce qu'ils n'ont reçu aucune proposition ou que des refus pour des filières sélectives. L'an dernier, près de 87 000 bacheliers étaient toujours sans proposition à la même date. C'est sensiblement le même pourcentage cette année. Ce qui change, c'est que les réponses vont continuer à arriver tout au long de l'été. Mais à la veille du 14 juillet, on peut dire que Parcoursup ne fait pas mieux qu'APB. Mais ce n'est pas plus catastrophique non plus. Quel que soit le système, ce qui est en cause, c'est davantage le nombre d'étudiants toujours plus important chaque année et le manque de places dans certaines filières.
Sonia Bourran, spécialiste éducation à France Inter. Le mot « race » et la distinction de sexe n'auront bientôt plus leur place dans la Constitution française. Les députés ont symboliquement adopté cet amendement hier à l'unanimité, mais sans les voix de l'extrême droite absente des bancs de l'Assemblée. Un comportement violent et inadmissible, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a décidé de suspendre un policier stagiaire hier, avant même la fin de l'enquête de l'IGPN, un policier filmé en train de frapper un détenu par les caméras de vidéosurveillance du nouveau palais de justice de Paris.
Direction le Royaume-Uni maintenant, Sébastien, car c'est un coup dur pour Theresa May.
La première ministre britannique déroule le tapis rouge depuis hier soir au président américain. Une visite en vue de sceller un accord commercial très ambitieux entre les deux pays. Mais Donald Trump vient de doucher ses espoirs avec une interview choc dans le Sun, un tabloïd. Une interview dans laquelle l'hôte de la Maison-Blanche critique vertement le Brexit choisi par Londres, trop soft à son goût. Et il n'hésite pas non plus, Donald Trump, à encenser le pire adversaire de Theresa May, Boris Johnson, qui a démissionné il y a quelques jours.
Let me tell you, he's a very talented guy. I was very saddened to see that he was leaving government.
Laissez-moi vous le dire, c'est vraiment un gars talentueux. J'étais vraiment triste de le voir quitter le gouvernement. J'espère qu'il va y revenir à un moment donné. Je crois qu'il ferait un grand Premier ministre, oui. Il a la bonne attitude pour être un grand Premier ministre. En réalité, j'ai dit à Theresa May comment faire. Je lui ai donné mon avis sur ce qu'elle devait faire et comment elle devait négocier. Mais elle n'était pas d'accord. Elle ne m'a pas écouté. Je lui ai dit, c'est dommage. L'accord qu'elle propose n'est pas celui sur lequel les gens ont voté. C'était pas dans le deal du référendum.
Donald Trump interviewé par le tabloïd britannique Le Sun. En Syrie, le régime de Bachar el-Assad s'apprête à mettre la main sur le berceau de la rébellion. Le drapeau syrien flotte depuis hier sur Dera, au sud du pays. Les rebelles se sont engagés à quitter la ville. Nouvelle journée sous très haute tension au Nicaragua, en proie à de violents affrontements depuis 3 mois. Grève générale dans tout le pays. L'opposition réclame le départ du président Daniel Ortega depuis le mois d'avril. Hier, 4 manifestants ont été tués ainsi qu'un policier, portant le bilan des violences à plus de 260 morts depuis le mois d'avril.
À 8h12, cette question, Sébastien Logénie, que faire de nos déchets nucléaires les moins radioactifs?
Une question pressante, car les capacités de stockage françaises seront bientôt saturées d'ici une dizaine d'années. La France qui stocke aujourd'hui 1 500 000 mètres cubes de déchets nucléaires, l'équivalent de 400 piscines olympiques, Sandy Dauphin.
Des gravats, de la terre, mais aussi des vêtements, des outils, les déchets faiblement ou très faiblement radioactifs ne sont pas les plus dangereux, mais ce sont de loin les plus volumineux. Or, leur centre de stockage dans l'Aube ne suffira pas dans les années à venir. Soraya Tabet, directrice Sûreté Environnement à l'ANDRA, c'est l'agence publique qui gère les déchets nucléaires.
Si on se projette à terminaison du parc actuel, quand toutes les centrales qui sont aujourd'hui en fonctionnement seront démantelées, on devrait produire à peu près 2 millions de mètres cubes de déchets très faiblement radioactifs. Aujourd'hui, le centre existant est dimensionné pour prendre 650 000 mètres cubes. À l'échéance 2025-2030, ce centre pourrait arriver à saturation.
L'ANDRA propose d'agrandir le site, mais il faudra de toute manière trouver d'autres solutions, ouvrir un nouveau centre ou bien recycler certains déchets très peu radioactifs.
Quand on peut démanteler des installations, on va produire du béton, des gravats qui sont quasi peu ou pas contaminés. Est-ce que ces gravats-là, on peut les utiliser par exemple sur nos sites de stockage pour combler des vides entre des colis ou des choses comme ça. Ça, c'est une autre possibilité d'optimisation.
Les Français pourront donner leur avis à la rentrée sur ces questions à haut potentiel polémique, car le prochain grand plan national de gestion des déchets radioactifs est soumis au débat public à l'automne.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement. Le PC n'est pas mort. On parle là du personal computer par du Parti communiste, concurrencé par les tablettes et les smartphones. La vente des ordinateurs de bureau a progressé pour la première fois depuis 6 ans, plus 1,4% au second trimestre 2018, notamment grâce au secteur professionnel.
Et l'on revient au foot. Enfin, Sébastien, les Belges n'ont pas passé le cap des demi-finales, on le sait, mais ils peuvent se consoler avec d'autres talents.
Oui, jusqu'à dimanche, le festival de Dour en Belgique fête ses 30 ans et depuis 2-3 ans, le royaume ne cesse d'exporter chez nous des rappeurs qui ont de plus en plus de succès parmi la jeunesse française. Une scène en pleine ébullition qui sera évidemment largement représentée. C'est cette année au festival Mathieu Culeron.
BXL, secteur nord-est. Si Damso, Romeo Elvis ou encore Caballero et Jean Jass ont réussi à conquérir les cours des collèges, l'omniprésence du rap belge en France découle d'un long processus de maturité. Mathieu Fonceny est coprogrammateur du festival de Dour.
Tout le monde s'est retourné vers cette scène qui est devenue en fait la musique pop en Belgique aujourd'hui. Notre pays est petit, en plus il est coupé en deux. Ça arrive à bon moment, tout le monde se tire un peu vers le haut, quoi.
C'est le rappeur belge Caballero, aujourd'hui accompagné de Jean Jass, qui a entrouvert les portes entre Bruxelles et Paris.
J'ai été un des premiers, on va dire, à renouer un gros contact avec, par exemple, avec le reste de la francophonie, en commençant surtout par Paris. Vers 2011 ou 12, je faisais un projet en commun avec Lompal et Hologramlo, qui est le DJ de 1995. Après qu'on sera tous millionnaires, on suppose on se détestera tous, quoi. Voilà, exactement. Quoi.
Et là commencera la guerre des gangs et on se tirera tous dessus, bien sûr. C'est logique.
Julie et Sacha ont-elles créé le duo R&B Juicy ? Pour elles, la scène belge a toujours existé.
Comme Bruxelles, c'est tout petit, je pense que les artistes se soutiennent et se relaient et disent « Ah ben voilà, il faut aussi écouter lui, dès qu'on a une entrée pour pouvoir un peu parler de ce qu'on fait. » Ça, c'est chouette. Mais bon, des trucs en Belgique, ça en passe depuis longtemps, quoi.
Le Festival de Dour, l'occasion de résumer une année exceptionnelle pour le rap belge.
Je la vois comme de la drogue. Elle me voit comme le chef du monde. RDV à mon hôtel.
Le titre Baé des rappeurs belges Caballero et Jean Jass, ils seront en concert ce soir au Festival de Dour en Belgique.
À défaut de finale, merci beaucoup Sébastien, le génie, la météo, Marie-Pierre, Planchon, les nuages s'invitent sur le nord du pays.
Et oui, le soleil a eu du mal à percer de la Normandie au bassin parisien, au Hauts-de-France et au nord des Ardennes, avec même une averse possible en matinée. Sur les côtes atlantiques, le ciel est voilé. Partout ailleurs, le soleil est déjà généreux sur les régions les plus au sud. Et même s'il fait moins frais qu'hier, quelques températures sont encore un peu fraîches. Sur la pointe du Finistère, comme en Bourgogne, en Lorraine ou en Haute-Loire.
Et cet après-midi, les orages seront assez forts vers les Pyrénées, Marie-Pierre.
Oui, des orages Amélie, accompagnés de vent et de grêle qui déborderont jusque dans les plaines du Béarn et au Pays Basque. Et au nord de la Loire, des cumulus de beau temps vont se développer, donnant quelques averses, qui seront peut-être un peu plus nombreuses que dans la matinée, de la Haute-Normandie à la Lorraine. Et en Ile-de-France, on n'est pas à l'abri d'une ondée. Et le vent s'est affaibli et laisse le mercure remonter tout doucement. Le minimum sera pour Saint-Brieuc avec 21, comptez 24 sur la plage du Touquet. 26 à Metz, 27 à Aurillac. Il fera aussi chaud à Nantes, à Paris, à Besançon. 29 à Bourges ou sur la plage de Pornic. 30 à Périgueux, comme à Bastia. Et dans le sud, toujours aussi chaud. 27 sur la plage de Biscarrosse. 29 sous le parasol sur la plage de Juan-les-Pins. 31 à Bordeaux, 32 à Toulouse. Aussi étouffant à Grenoble, à Marseille avec 33. 34 à Cavaillon, 35 dans les arènes de Nîmes. Et un petit mot du week-end,
oui,
si vous voulez.
14 juillet.
Samedi, moyenne de 30 au nord, 33 au sud, avec des pointes à 26, 27 vers Carpentras. Et des orages quand même qui vont s'inviter dans le nord. Reste sur les Alpes, les Pyrénées et même dimanche sur le Massif central.
Merci Marie-Pierre Planchon.